Et on est ensemble, Léa Salamé, pour la suite de notre entretien, donc avec Jacques Toubon, défenseur des droits. Nos questions à tous les deux, Léa, et les vôtres, auditeurs d'Inter, au 01 45 24 7000. Bonjour Nikita.
Salut, salut, bonjour la France Inter, je vous remercie de prendre ma question. Monsieur Toubon, je voulais vous soumettre une question évidente, parce que la réponse est inclue dans la question. Vous nous dites ce matin que vous interpellez le gouvernement, et ceci depuis un certain temps déjà, je vous entends dans les médias le faire. Mais pour quel résultat? Depuis que vous intervenez, depuis que les associations vous interpellent, le gouvernement est au courant, vous l'avez dit vous-même ce matin, il ne fait rien. Au contraire, la situation s'empire, les frontières se militarisent, sur les trottoirs à Paris, les exactions policières sont quotidienne, nocturne. Encore il y a lundi dernier, des tentes ont été lacérées. Des tentes distribuées par une association anglaise ont été lacérées. Et quand la police, dont la mission est la protection des biens et des personnes, s'adonne à ce type d'action, à l'encontre de gens qui sont sur le trottoir, sous la pluie, c'est du hooliganisme. C'est du hooliganisme. Alors, monsieur Toubon, je me demande, quel est votre pouvoir réel? À quoi servez-vous?
On va le demander, Nikita. On va le demander à Jacques Toubon. Restez en ligne. Merci pour cette intervention. La parole à Jacques Toubon. À quoi servez-vous? Que pouvez-vous faire?
Le défenseur des droits n'est pas un juge. Ses décisions n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Mais dans beaucoup de cas, et notamment, monsieur, dans les cas où, par exemple, des forces de sécurité, la police ou la gendarmerie, auraient enfreint les règles qu'on appelle celles de la déontologie de la sécurité. Elles se seraient comportées de manière non proportionnelle, de manière non nécessaire. Eh bien, dans beaucoup de cas, nous obtenons que des sanctions soient prises. Toutes ces questions, nous les instruisons de manière extrêmement sérieuse. Je prendrai un seul exemple.
Les couvertures confisquées aux migrants.
Très récemment.
Les couvertures confisquées.
C'est clair que nous avons, je le rappelle, obtenu, par exemple, une décision extrêmement importante du Conseil d'État le 31 juillet dernier, 2017. C'est la première fois que le Conseil d'État a déclaré que ce qui se passait à Calais vis-à-vis des migrants pouvait constituer un traitement barbare et inhumain au sens des conventions internationales, et à partir de là a enjoint à l'État de prendre un certain nombre de mesures, et nous avons présenté devant le Conseil d'État, devant le tribunal administratif de Lille, des observations. Nous avons été, de ce point de vue, efficaces. Mais monsieur, vous avez parfaitement raison, et je le vis tous les jours, moi. Je sais qu'il faut sans cesse recommencer, et par exemple, je peux le dire, c'est une nouvelle, elle n'a rien de... Je peux l'annoncer parce que je ne travaille pas dans la clandestinité. Au mois de janvier prochain, au début du mois, nous allons envoyer une nouvelle mission d'inspection à Calais pour voir comment les choses se passent. Et nous ferons la même chose, naturellement, dans d'autres situations, comme nous sommes allés dans d'autres endroits pour le faire. Donc, en fait, le défenseur des droits, avec cette sorte de pouvoir réel, mais qui n'est pas le glaive, en quelque sorte, du juge qui peut trancher les situations, fait avancer les choses. C'est vrai, monsieur, vous l'avez tout à fait raison, et je veux le dire de manière générale, si je suis ici ce matin, c'est parce que notre pays, comme beaucoup d'autres pays d'Europe, connaît aujourd'hui une situation, de manière générale, et pas seulement sur les migrations, pas seulement sur les étrangers, qui est que les discours identitaires et sécuritaires ont supplanté les discours et les politiques de l'égalité et de l'humanité, et que ceci a des conséquences, par exemple, sur un autre sujet sur lequel je suis compétent, c'est qu'on voit de plus en plus de discrimination selon l'origine, selon la religion, c'est-à-dire que nous sommes dans une société où, c'est vrai, monsieur, les politiques publiques ne sont plus suffisamment efficaces contre ce qu'on pourrait appeler l'exclusion, le fait que des millions et des millions de gens soient laissés pour compte.
Carmen, bonjour, vous nous appelez de Moulins.
Oui, bonjour Nicolas Demorand et surtout bonjour à Monsieur Toubon que je voudrais remercier de son travail en tant que défenseur des droits, même si c'est vrai que les résultats sont limités. J'aurais voulu savoir s'il est dans vos attributions, Monsieur Toubon, d'intervenir pour dénoncer le délit de solidarité et de défendre les droits de tous ces citoyens qui sont dans les tribunaux et dont le seul crime est d'aider pour des raisons humanitaires.
Merci Carmen pour cette question.
Il n'est naturellement pas dans mon pouvoir de changer la loi. Si le code pénal est ce qu'il est, il est ce qu'il est. Mais vous savez très bien que mon prédécesseur, la HALDE qui avait précédé le défenseur des droits, ont pris position sur ce sujet, que les modifications qui ont été faites après l'arrivée du président Hollande au pouvoir en 2012 ont été inspirées par un certain nombre de réflexions qu'avait faites le défenseur des droits. Donc je considère pour ma part que nous devrions aller au-delà de ce qui a été fait à l'époque dans les modifications du code pénal et que nous devrions faire en sorte que ce délit de solidarité n'existe plus, parce que aujourd'hui, c'est ça qui est caractéristique, Nicolas Demorand, c'est que moi je vois bien, et malgré des décisions comme celle du Conseil d'État dont je parlais tout à l'heure, qui a été très forte, je vois bien que le secteur privé, les associations, les particuliers sont en train, dans beaucoup d'endroits, sur beaucoup de sujets, de se substituer à l'État ou aux services publics, aux services des départements. On a le sentiment que l'humanité de la population prend le dessus, son sens de l'hospitalité continue à être réel, alors que les pouvoirs publics mènent des politiques qui sont beaucoup plus dures. C'est une situation qui n'est pas normale, car je rappelle qu'en France, les obligations légales, elles sont à la charge d'abord des services publics.
Léa Salamé.
Jacques Toubon, vous avez dit tout à l'heure que ce gouvernement va plus loin que tous les autres sur la gestion des migrants dans une vision sécuritaire, plus loin que Nicolas Sarkozy, donc plus loin que François Hollande. Comment vous l'expliquez? Quelle est l'idéologie qui préside à cela? Pour être très clair, selon vous, est-ce que c'est le pragmatisme d'Emmanuel Macron qui l'emporte sur son progressisme?
Là, vous me lancez dans une analyse politique qui, naturellement, ne m'appartient pas.
Philosophique aussi.
Philosophique, oui, qu'on essaie de comprendre.
Absolument. Je dirais seulement que moi j'ai eu le sentiment que le nouveau président de la République et le nouveau gouvernement étaient prêts à remettre en cause une évolution qui a commencé il y a une quinzaine d'années, hein, et qui est celle que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire la prééminence des politiques et des discours identitaires et sécuritaires. Depuis 6 mois, ce que je constate, c'est que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de remise en cause et que les mesures qui sont prises, au contraire, renforcent l'arsenal qui a été... car je rappelle, j'ouvre simplement cette parenthèse, que nous nous situons aussi avec toute une série de textes en matière de sécurité et de liberté publique et individuelle, qui sont tous marqués de la même idée. Je ferme cette parenthèse, parce que naturellement ce n'est pas le même sujet. Mais
est-ce que ça vous a surpris, attendez, Jacques, pour comprendre,
par
rapport
de vue,
à ce que vous avez entendu de Macron pendant la campagne,
voilà. Et donc, de mon point de vue, il y a certainement, je dirais, une attente, parce que le défenseur des droits, encore une fois, il n'est pas là pour choisir entre les uns et les autres sur le plan politique. Je crois que si la connaissance de ces questions se développe, et une des tâches du défenseur des droits, c'est de porter à connaissance, de faire les études, de faire des rapports. Celui que j'ai fait en mai 2016 sur les droits fondamentaux des étrangers dans notre pays, de manière générale, que à partir de cette connaissance, la conscience dans l'opinion publique, parce que l'opinion publique est majeure dans ce domaine, vous savez qu'aujourd'hui, elle est marquée, je dirais à juste titre, par la crainte, par la peur de l'autre, bien entendu. Et que, dans ces conditions, la conscience peut se développer et que cette conscience peut agir sur le gouvernement. Autrement dit, moi, je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que nous allons vers le pire. Je crois vraiment que si l'on sait, En France, on est tout à fait capable de devenir conscient de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut faire dans le sens de ce que j'ai dit. Voilà moi ma réponse. Je suis non pas d'un optimisme béat. Je pense que dans ce pays, avec ce président de la République et ce gouvernement, et avec la société civile qui est là à l'œuvre, nous pouvons changer les choses.
Je tiens absolument à donner la parole à Delphine. Bonjour, bienvenue sur Inter.
Bonjour France Inter, qui nous est chère comme tous ces services publics. Je vous appelle de Nantes, une belle ville qui est connue pour son éléphant et son aéroport, mais nous avons d'autres attractivités et d'autres sources de problèmes. C'est la non prise en charge de ces jeunes que nous appelons maintenant mineurs non accompagnés. Bonjour Monsieur Toubon, et je tiens aussi à dire bonjour à Madame Evenard, hein, qui joue un rôle également important.
Evenard,
pardon.
Alors allez-y Delphine.
Monsieur Toubon, le 14 mars 2016, la loi relative à la protection de l'enfance a été réformée dans une totale indifférence, faisant une distinction entre un enfant lambda et un enfant migrant, que nous appelons donc maintenant de façon plus lissée mineur non accompagné. J'ai bien compris que vous n'étiez pas juge, mais je pense que vous avez quand même votre pensée, et je voudrais connaître votre pensée. Est-ce normal, légitime et moral de distinguer deux types d'enfants au sein d'une république ayant comme belle et grande devise liberté, égalité et fraternité?
Merci pour cette question.
Première,
Jacques
Toubon. Madame, la situation des mineurs non accompagnés, c'est une grande préoccupation pour nous, mais je me permets de vous dire que ce que vous dites sur un point n'est pas juste. C'est-à-dire que, justement, ce qui caractérise la situation des MNA dans la loi du 14 mars, ou dans toutes les autres avant, c'est que justement, ce sont des enfants comme les autres. C'est-à-dire que un enfant qui vient dans notre pays et qui est étranger, ou un enfant qui n'est pas étranger et qui est en danger, en situation de précarité, en situation de détresse, il doit être pris en charge par la protection sociale de l'enfance.
L'est-il ?
Et c'est toute la question aujourd'hui. Avant, ça s'appelait les mineurs isolés étrangers. Aujourd'hui, ce sont les mineurs non accompagnés. Mais donc, c'est la base même de la position du défenseur des droits. Devant ce qui est proposé aujourd'hui par les départements, par le gouvernement, c'est-à-dire que l'État irait vers une certaine prise en charge. Nous verrons dans 2 ou 3 mois, puisqu'aujourd'hui, les détails de tout ça sont en train d'être mis au point, en concertation. Il y a l'idée que l'État s'impliquerait davantage dans la phase mise à l'abri, c'est-à-dire justement quand cet enfant en danger arrive, et d'autre part, sur la phase évaluation de la minorité. Et nous avons, nous, dit tout simplement qu'il nous paraissait nécessaire que toute réforme assure l'égalité entre les territoires, et ceci est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il faut par exemple que l'évaluation soit faite pareille dans tous les départements, et notamment qu'elle exclue systématiquement les fameux examens osseux que nous considérons comme indignes. Que deuxièmement, il ne faut pas faire dériver cette prise en charge vers le droit des migrants, et justement madame, ce n'est pas le cas aujourd'hui, il ne faut pas risquer que ces enfants ne soient plus considérés comme des enfants en danger, mais comme des étrangers arrivant sur notre sol, c'est-à-dire qu'ils soient dans la filière migrant. Et, troisièmement, naturellement, nous pensons qu'il faut faire un effort particulier pour ce qu'on appelle les jeunes majeurs, madame, parce que, après 16 ans, qu'est-ce que deviennent ces enfants ?